Le fils, le Christ, s'est coulé dans le développement de l'homme. Donc il y a bien toutes ces dimensions. Enfin, on voit la toute petite enfance et puis cette phrase, l'enfant, lui, grandissait, se fortifiait. Donc il y a une vraie dimension. On voit aussi que le Christ, il s'est entouré de disciples. Donc il n'a pas fait sa mission tout seul. Voilà, et donc dans son être de fils au sein de la Trinité, il se reçoit du Père de façon instantanée, mais dans l'humanité, il se reçoit des autres dans le temps, en fait. Et c'est pourtant la même capacité filiale à recevoir. Alors, ce qu'on peut noter aussi dans le projet de Dieu, c'est que la famille, elle est de droit divin, c'est-à-dire que dès le début, de l'origine de la Genèse, Dieu a voulu l'homme dans une famille, en fait. C'est le début avec Adam et Ève, mais aussi avec les premiers enfants. Voilà, et donc on a l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et ça, c'est Jésus l'a repris dans le Nouveau Testament. Donc il y a quelque chose d'un vrai projet de Dieu qui se dessine dans la famille. Et puis aussi, on voit avec Noé, voilà, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Donc c'est aussi une famille qu'on préserve, c'est pas juste Noé. Même Noé et sa femme, mais c'est une famille, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux, d'ailleurs, où il dit juste un couple de chaque espèce. Là, c'est toute la famille de Noé qui est embarquée sur l'arche. Donc, il y a vraiment cette dimension familiale qui est le cœur de de cette vie en société. Et je pense que ça nous dit deux choses sur le projet de Dieu qui est corporatif, c'est-à-dire en raison. C'est en fait que les relations, c'est aussi de la proximité. Ça se joue dans le temps. Et dans un même lieu, dans une proximité. Et c'est exactement ce qu'est la famille, en fait. Voilà. Donc, en Adam, il a voulu fonder toute l'humanité comme une famille. Voilà, et on dit d'ailleurs, fils de tes fils, enfin, voilà, il y a quelque chose de cette continuité comme une vie familiale. Bon, alors là, la proximité dans le temps, elle va être un peu plus distendue, c'est quand on parle de plusieurs générations. Mais il y a quand même cette unité. Voilà, et donc on n'est pas créé chacun un tour de rôle comme les anges, mais on est avec une parent et des hérédités. C'est important de voir dans la Bible le nombre de fois où il y a ces généalogies, ces choses qui sont toujours un peu perturbantes, parce que pour nous, ce n'est pas aussi crucial de ça. Il y en a peut-être quelque chose à redécouvrir d'ailleurs de cette importance de la famille et de notre origine, du coup. Et donc la gravité des conséquences de la faute originelle, c'est qu'elle atteint toute la famille humaine. Puisque justement, on a cette forme de connexion et de relations qui sont particulièrement soudées dans la famille, en communion. Et donc, il y a cette propagation du péché à toute la famille humaine, très au-delà de la responsabilité finalement de chacun, et même du lien précisément père-fils. Ce n'est pas une transmission de père-fils, c'est comme une contamination de toute la famille humaine. Et on a l'envers positif, évidemment, avec la communion des saints, qui relie tous les sauvés dans un immense organisme de grâce, où nous méritons quelque part les uns pour les autres. Et donc, on peut avoir cette dimension aussi dans le positif. Les pères sont sensibles au fait que l'effet principal du péché a été de morceler l'aventure humaine, d'isoler chacun dans son camp à soi. Et on voit bien, c'est déjà la réaction de défiance entre Adam et Ève, mais c'est aussi la réaction de péché, c'est Babel, c'est enfin, tous les moments. Il y a cette repli sur soi, et donc justement, on n'entre plus en relation, on n'est plus dans cette communion. Et donc, c'est un peu comme si le miroir se brisait en d'innombrables fragments qui ne reflètent plus l'original, parce qu'ils n'ont plus que les fragments, même s'il y a une trace de cet original. L'Église, elle a souvent considéré la société comme une grande famille, et quelque part, elle s'est aussi, elle, en tant qu'institution, elle a aussi posé comme une des dimensions de famille. Voilà, on a aussi les pères spirituels, et voilà, c'est intéressant de voir les thématiques autour de la famille qui sont dans l'Église. Et puis le fait qu'aussi elle a protégé la famille, et donc elle est toujours très vigilante, et ça a été un de ses grands, on verra plus tard dans le 19e et 20e, mais c'est vraiment un de ses grands leviers, c'est de, voilà, une société qui commence à nier la famille, a toutes les chances d'aller droit vers quelque chose de pas bien. Voilà. Donc la famille, elle est vraiment clé pour être le baromètre aussi d'une société qui est quelque part juste. Alors avec tout ça, on voit bien que la nécessité du politique, alors politique toujours au sens, on n'est pas encore dans la politique là, mais le politique au sens police, la cité. Donc l'Ancien Testament nous montre l'expérience d'Israël comme celle d'une famille devenue un peuple au milieu des autres peuples. Et donc, le dessein de Dieu a une dimension incontestablement politique. Et la loi, finalement, n'est pas seulement quelque chose de complètement individuel dans le peuple d'Israël. La loi, elle a une valeur de donner une conscience d'appartenance, de marquer un peuple avec des traits distinctifs, en règles de pureté, règles alimentaires, etc. Enfin, toutes les lois. Voilà. Il y a aussi le Dieu qui demande au peuple hébreu il interdit plutôt les unions étrangères. Il le met en garde, on verra que ce n'est pas systématique. Il le met en garde contre les cultes des autres nations, etc. Donc il y a ce côté nation, finalement, du peuple hébreu, qui est une société qui a un contour et qui est voulue comme un peuple, comme une famille, mais aussi comme avec une codification et donc une vie en société. Pourtant, Dieu est le peuple de tous les peuples, et donc il pleure sur ses enfants d'Égypte. Il dit à Jonas qu'il se résignait très bien à la destruction de Ninive, que la ville détestée des Israélites, que lui, bah non, il n'aurait pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains. Il bénit l'union de Boaz, l'ancêtre de David, avec Ruth, la Moabite. Donc là, on voit bien que les unions avec les étrangers, bah, ça arrive aussi. Donc il y a aussi de l'interconnexion. Et puis il y a toutes les lois autour du le respect de l'étranger, l'accueil de l'étranger. Donc qui sont aussi très fortes dans la loi.
Excuse-moi, Sylvie, je vais chercher mes lunettes.
Et puis il fait appel à Cyrus, un roi perse, pour réaliser ses dessins. Voilà. Et puis on demande à ce que, enfin même en exil, les Juifs prient pour les cités qui les accueillent. Et puis quelque part, il y a toujours cette loyauté. Donc voilà, donc ils s'inscrivent dans des nations. Voilà. Donc l'histoire a façonné des nations, on le voit dans la Bible et puis bien évidemment en dehors aussi du peuple hébreu. Et en fait, ça représente des souverainetés exclusives les unes des autres, qui ont chacune vocation d'assurer sur un territoire donné les fonctions essentielles du bien commun. Alors ça, on verra dans la troisième partie, c'est quoi cette notion de bien commun et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Mais là, donc, on peut dire que déjà, l'identité culturelle des peuples, c'est un peu comme une histoire de famille. Voilà. Et c'est donc cette connotation familiale, qui sont un peu la patrie, qui est une manière d'accéder à l'universel. Donc non seulement ça nous met en relation avec les autres, mais c'est une manière d'accéder à l'universel. Et donc quelque part de d'accéder à l'humanité. Enfin, voilà, c'est un peu ce qui nous relie à toute l'humanité, en fait. Ça passe à travers des réalités concrètes. C'est pas juste on est une... comment dire ? On est l'humanité. Voilà, c'est pas un truc théorique. Ça se passe dans des nations, des relations, des cités. C'est toujours ancré et incarné avec Dieu. Alors, on peut voir aussi que dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, il a accepté de donner aux soldats romains et aux percepteurs des conseils d'humanité. Donc, il ne s'est pas préoccupé de dire « c'est pas des métiers qu'il faut, vous n'avez pas le droit de travailler pour l'occupation romaine, etc. » Tout ça, il leur a juste dit comment ils pouvaient être droits et justes et se convertir là où ils étaient. Quand Jésus, et on lui pose la question sur l'impôt, il dit « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et non pas un « mais » d'ailleurs, au passage, je vous le fais. Voilà, et du coup, il reconnaît par là même qu'il y a une sorte d'autonomie limitée des affaires temporelles, sans confusion avec nos devoirs pour Dieu. Donc, voilà, il y a quand même une séparation, on verra un petit peu plus loin cette séparation du spirituel et du temporel. Les apôtres, ils ont accepté sans discuter l'ordre romain. Ils ont même profité de ces lois et des routes pour étendre le message chrétien. Paul, il fait appel à l'empereur quand il est jugé, en tant que citoyen romain. Donc ils sont tout à fait inscrits dans le cadre de gouvernement qui est là. Et puis très vite, il y a eu des chrétiens dans le personnel impérial, et donc les apôtres conseillent la soumission au pouvoir établi. Mais quand ils estiment qu'il y a trop de persécution ou que ça ne va pas, ils n'hésitent pas à vilipender ce même pouvoir en l'appelant, en le comparant à la bête. Donc concrètement, si on détermine cette nécessité du politique, on pourrait dire que l'autorité, elle est considérée comme un instrument dont on ne peut faire l'économie. Et donc, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Instrument qu'il faut utiliser avec discernement quand même. Et c'est là où il y aura un peu de délai. C'est pas tout pouvoir... n'est pas absolu et il doit s'ordonner. Donc dans un deuxième temps, maintenant, on va voir comment... est-ce qu'il y a un modèle préféré par Dieu de cité ? Est-ce que Dieu a un projet de façon de faire ? Et notamment la question du royaume et de la royauté. Alors, si on repart de nouveau de la Bible, donc on voit que le premier modèle politique, il est patriarcal. C'est Abraham, il est chef de clan, il est entouré de ses serviteurs, de ses enfants... Donc, on est vraiment sur un système patriarcal. Voilà, il y a le patriarche, c'est Abraham. Le second modèle qu'on voit apparaître est théocratique. Donc, c'est Moïse. Il n'est jamais appelé roi. Il n'a pas ce titre-là. Il est à la fois prêtre, prophète. Il conduit les Hébreux au nom du Seigneur. Mais il fait appel aussi à des relais intermédiaires. D'abord, on sait Aaron qui porte la voix parce qu'il a été bègue ou pas très voilà, à l'aise à l'oral. Voilà. Et donc, on a un deuxième modèle qui est un peu atypique encore. Ensuite, avec Josué, on a toujours ce second modèle. Mais après, à l'installation de la Terre promise, on voit qu'il y a l'épisode des juges. Donc là, c'était plutôt... On mettait en avant des chefs qui avaient une certaine dimension charismatique, qui étaient voilà, éligibles, parce que quand il y avait une crise, pour qu'il y ait quelqu'un qui représente les choses ou qui prenne un peu les décisions. Et puis, petit à petit, s'amorce la réflexion sur la monarchie. Donc là, les Israélites demandent à Dieu un roi, parce qu'ils voient dans les images en nations environnantes que ça a l'air efficace, que ça fait bien ranger, qu'on voit bien ce qui se passe, etc. Donc au début, Dieu se rebelle contre ça en disant ben non, ils n'ont pas besoin d'un roi, puisque finalement c'est moi qui suis le roi, c'est Dieu seul est le roi. Et il leur explique tout ce que ça va leur coûter en termes de peine, d'argent perdu, d'inefficacité. Mais ils veulent quand même un roi. Donc finalement, Dieu dit, écoute leur voix et donne-leur un roi. Voilà, il dit ça à Samuel. Et puis après, même il s'en sert, puisque quand il aura trouvé David en pasteur selon son cœur, il institue la royauté et il lui donne même une certaine pérennité. Voilà, ensuite on a des épisodes plus ou moins bien. Mais on voit qu'après l'exil... il n'y a pas de retour de la royauté. Donc, on ne parle plus de royauté. On ne parle plus non plus, d'ailleurs, d'indépendance politique. Donc là, on est... Israël est occupé. Pourtant, il y avait une forme d'autonomie des prêtres. Donc, il y avait quand même toute une partie législative et puis le territoire aussi du temple et tout ça qui sont... où c'est plutôt les prêtres qui dirigent. Donc, il y avait une sorte de répartition, on va dire, des choses. Voilà. Et il y a cette idée, et c'est à travers le Messie aussi, l'attente du Messie, il y a l'idée d'un nouveau David, qui va assurer paix, prospérité, respect des pauvres, mais qui lui-même se soumettra à l'autorité des prêtres. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est que Jésus s'est sans cesse démarqué du modèle politique. Donc, ils ont voulu le faire roi. Alors, il se retira dans la montagne lui seul. Ça, c'est dans Jean 6, 15. Voilà. Il dit ça. Pourtant, il parle de sa royauté, qui ne vient pas de ce monde. Mais il parle quand même de sa royauté. Et puis, il a accepté que ce soit quand même... rentre dans les réalités de ce monde, puisqu'il finalement, il a accepté le titre de fils de David devant le peuple, au rameau. Donc, il accepte ça. Et même de roi devant Pilate, puisqu'il dit « c'est toi qui le dis », mais il ne lui dit pas que c'est faux. Voilà. Donc, on voit que c'est... C'est pas partie prenante, c'est une forme de gouvernement, mais surtout, il prend quand même ses distances. Donc, ce qui rappelle à Pilate, c'est que celui-ci n'aurait aucun pouvoir s'il ne lui avait été donné d'en haut. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé, c'est détenteur de l'autorité, même discutable. En fait, il a une mission voulue par Dieu. Et donc, en fait, son pouvoir, il est pas, c'est pas lui qui l'a, c'est Dieu, en fait. Voilà. Et puis après, sur la fondation de l'Église, qui est une forme de société, une institution, donc c'est une forme d'expérience institutionnelle. Alors, on n'est pas dans le domaine des nations et des patries, mais on est dans un autre domaine, mais quand même. Et là, on voit qu'en fait, c'est un fondateur relativement atypique, puisqu'il n'a pas donné une loi, il n'a pas dit grand-chose. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il a vécu avec eux pendant 3 ans, et il leur a légué des paroles, l'Esprit Saint. Donc, c'est très peu pour une fondation. Il ne leur a pas dit comment ils allaient s'y prendre, qu'est-ce qu'ils avaient à faire exactement. Il leur dit juste « allez baptiser la terre entière ». Bon, ça, c'est un programme un peu flou. Donc, c'est vraiment une fondation atypique. Et en fait, ça nous dit aussi des choses sur la fondation. Parce que finalement, c'est l'Esprit-Saint qui est le garant. Et donc, ce n'est pas une loi a priori. Après, les hommes en font ce qu'ils veulent et donc sont autosuffisants. On en revient toujours là. Mais c'est l'Esprit-Saint et c'est lui qui va permettre que ça reste dépendant de Dieu. Alors ensuite, si on reprend l'histoire de l'Église, de la première Église dans les nations autour d'elle, donc on a la première phase, c'est les persécutions. Donc là, le christianisme, il se développe, mais en marge des structures officielles, plus ou moins cachées. Il cherche surtout à préserver son identité spirituelle et à survivre et à continuer à faire des disciples. Donc on voit dans l'Épître à Dionette le thème d'une double citoyenneté. Donc les chrétiens, finalement, sont partout chez eux. Ils s'y distinguent ni par la langue, ni par le costume. Ils sont plutôt loyaux avec les autorités. travaillent, mettent des enfants au monde. Donc en fait, ils sont dans toutes les sphères de la société. Et pourtant, ils créent une dimension, une sorte de citoyenneté spirituelle, puisque là, il y a un certain nombre de choses où c'est chasse gardée, quoi. Donc refus d'idolâtrie, de la fornication, de l'avortement. Et on pourrait citer un certain nombre d'autres domaines, d'assister à la messe, enfin un certain nombre de choses qui font que, voilà, ils sont doubles citoyens. Et on voit bien que dans cette période, mais ce sera vrai aussi après, les martyrs confrontés aux lois injustes qui prétendent diriger leur conscience réclament la liberté, tout en déclarant qu'ils prient pour l'empereur, servent le bien commun. Et donc, ils sont aussi sur cette ambiguïté. Mais ça dépasse, ça les empêche d'être citoyens du ciel, ou chrétiens. Et donc là, ils ne peuvent pas abdiquer sur cette partie-là. On a la même chose dans l'armée, où finalement, il y a eu très tôt dans l'armée des chrétiens. D'abord, parce que c'est aussi l'armée, c'est ce qui se propage. Hein, ça va à l'autre bout des confins du territoire. Donc, c'est aussi un territoire d'évangélisation qui a bien fonctionné. Et là, périodiquement, bah, ils se retrouvent posés devant le choix du serment impérial, qui est contradictoire avec prêter serment à l'empereur. Bah, c'est renoncer à prêter, enfin, à l'allégeance à Dieu. Et donc, du coup, bah, résultat, régulièrement, ils sont sacrifiés. Donc, avec Constantin, lui, il a une autre optique. Il se dit plutôt que de les persécuter, ces gens-là, ils ont l'air dynamiques, ils ont du sens du sacrifice, ils travaillent bien. Donc là, je vous fais la version moins... voilà, c'est peut-être aussi un... C'est pas forcément que ça. Mais en tout cas, il y a une dimension politique, de gouvernement politique, là, pour le coup, pour se dire d'intégrer les chrétiens à la vie de l'Empire, au lieu de les combattre. Voilà, finalement, il vaut mieux qu'ils soient avec que contre. Probablement qu'ils n'avaient pas non plus d'autres choses à leur proposer, donc, ou à lutter pour. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire que petit à petit, donc ça a pris à peu près un siècle, mais le christianisme qui était toléré au début avec Constantin et devient finalement quasi exclusif. Et donc, on amorce la partie où les chrétiens sont finalement au service de l'Empire. Ils le défendent, y compris ses idéaux. Et le monachisme, en fait, donc les moines font ce que les martyrs avaient fait pendant les persécutions. C'est-à-dire que c'est eux qui permettent de dire « Attends, oui, mais il y a quand même des garde-fous, quoi. Donc c'est pas tout, n'importe quoi. » Donc eux, ils remettent un petit peu de ciel et de droiture pour être sûr qu'on reste, bien chrétien. Voilà. Et notamment... voilà, donc c'est toujours cette ambiguïté. Quand on a l'ère des persécutions, ben on a les martyrs pour montrer que ben non, il y a des limites aussi. Mais quand on est dans l'autre sens ou qu'on est côté régime d'État ou de l'Empire, eh ben, il y a aussi le monachisme ou d'autres troubles faits, parce qu'on aura Saint-François d'Assise un peu plus loin, pour dire non, mais attendez, voilà, il y a quand même des bornes, quoi. Et donc pour garder cet équilibre. Voilà. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, de toute cette période après Constantin, voilà, ça a quand même fait évoluer la législation dans le sens d'un plus grand respect de la dignité humaine. Donc on voit l'intérêt d'avoir quand même une alliance avec le politique pour notamment l'abandon de la marque des esclaves au fer rouge. C'est un exemple. Et puis aussi la défense de la famille qui est vraiment une récurrence pendant tout le temps. Alors donc on a une osmose là avec les chrétientés en Orient et en Occident, presque totale entre les structures séculières et l'Église, avec toujours le danger de confusion. Donc on est encore plus là parce que à la limite Constantin, on avait quand même un empereur qui n'était pas séparé, alors que là après avec les empires en Orient et en Occident, on a les sacres des rois et des empereurs, donc quelque part qui sont encore plus incarnant la double vue spirituelle et temporelle. Voilà. Mais pourtant, ces sociétés, elles restent placées sous le signe de la croix. Et même le pouvoir qui est sacralisé avec les rois et les empereurs, il a des exigences, c'est-à-dire qu'il y a quand même des garde-fous, notamment l'indépendance du pape, qui est fondée sur son pouvoir temporel. Donc là, c'est dans l'autre sens. Le pape, il est d'abord spirituel, mais lui, il a son territoire. Et donc, il a un pouvoir temporel qui lui permet de parler d'égal à égal avec les autres souverains et parfois de les contester et parfois de délier les sujets du lien d'obéissance quand il estime que c'est injuste pour qu'il y ait une lutte contre les pouvoirs injustes. Voilà. Et là, de nouveau, on a encore des progressions dans la vie sociale sur un certain nombre de domaines, notamment l'indissolubilité du mariage et la limitation de la violence. Donc voilà, donc on voit que chaque fois qu'il y a eu des États chrétiens ou des territoires de chrétienté, eh ben en fait, il y a eu quand même des voilà, il y a les lois qui ont avancé dans le bon sens. Alors après, on a la période de la Révolution française, hein, qui a détruit l'ordre politico-religieux de l'Ancien Régime et a voulu édifier un autre ordre nouveau, où finalement le religieux n'est qu'un des acteurs et donc il est soumis aux impératifs de la volonté générale. Alors là, on a la réaction du pape Pie VI et de l'Église du XIXe, qui, face à cette façon de mettre en avant une sorte de volonté générale de bien, mais on ne sait pas très bien de quel bien on parlait, a rejeté en bloc tout ce qu'a proposé la Révolution française. Ça a été ce malentendu sur les droits de l'homme jusqu'à Vatican II, en fait. Finalement, on voit qu'au 19e, bah, il n'y a pas eu de gens dans l'Église, un peu prélats ou évêques ou autres, un peu en première ligne, qui a lutté contre l'esclavage, par exemple, ou milité pour la libération des esclaves. Donc on voit qu'il y a eu quand même ce bloc avec ce que la Révolution française a promulgué de négation du spirituel, qui, du coup, par réaction inverse, a fait qu'ils ont tout rejeté, y compris des choses qui, finalement, parce que on voit que la Révolution française, c'est basé sur les libertés, égalité, fraternité, c'est quand même bien puisé dans l'héritage chrétien. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu cette ambivalence, et c'est vraiment avec Vatican II que il a fallu tout ce siècle pour que l'Église digère le fait de ne plus être un corps politique, d'être finalement reléguée dans un territoire juste spirituel, et qu'elle ait le temps de digérer ça et de se dire qu'il y a une autre manière d'être quand même active dans la cité. Et Vatican II a beaucoup promulgué de choses sur justement qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a eu toutes les histoires sur la doctrine sociale de l'Église, donc interférence dans le monde temporel, mais aussi sur le rôle de l'Église, l'articulation, l'émission des laïcs. Enfin, il y a plein de choses qui font que voilà, elle reprend d'une autre façon, mais il lui a fallu un temps de digestion. Voilà. Donc on voit que quels que soient les systèmes et les temps, l'Église ou certains de ses membres, j'ai cité saint François d'Assise, mais il y en a plein d'autres, hein, ont accepté de lutter contre un faux consensus ou une contamination du monde. Et c'est vraiment très intéressant de voir dans toute l'histoire, là, sur les 2000 ans, que bah, finalement, qu'ils soient dans un État chrétien ou dans un État pas chrétien, voire persécuté pour les chrétiens, bah, en fait, l'Église, elle est restée avec cette ligne directrice d'être tournée vers le ciel et vers ce que veut Jésus, quoi. Voilà. Et donc, elle a lutté sur la prépare l'avenir de la seule façon sérieuse qui soit, celle des saints, celle des martyrs, qui, même s'ils sont marginalisés par la société, ont permis de dépasser les peurs et les slogans pour aller vraiment vers l'essentiel. Alors, ce que ça a fait, toute cette histoire-là, c'est que du coup, c'est ce que je vous disais, il y a eu beaucoup à partir de Léon XIII, donc Léon XIII, c'est à peu près vers fin 19e, donc je vous cite des choses de Immortale Dei, c'est 1885, qui a clarifié un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur la distinction entre le spirituel et le temporaire? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça s'articule, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il affirme, Dieu a donc divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances, la puissance ecclésiastique, donc on est spirituel, et la puissance civile. Celle-là préposée aux choses divines, celle-ci aux choses humaines. Chacune d'elles en son genre est souveraine. Chacune est renfermée dans les limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Donc ce qu'il dit d'abord, c'est finalement il y a deux pouvoirs qui ont été voulus par Dieu, parce qu'il y a quand même des affaires temporelles, et on le voit même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça reste des choses qui ont été statuées pragmatiquement. Voilà. Et donc il dit chacune a son territoire et il y a en fonction de son but et de ce qu'elle a à faire. Voilà, une mission finalement particulière de chacune. Alors, il signifie pas du tout que du coup chacun est vraiment complètement séparé et donc c'est complètement étanche. Pas de schizophrénie, jamais. Ça, c'est jamais une bonne solution. Et donc, il y a des domaines où les deux pouvoirs doivent s'exercer conjointement et s'harmoniser. Voire même l'un peut conseiller l'autre ou inversement. Voilà. Et donc, c'est la même image que ce qu'il utilise dans un autre endroit, qui unissent dans l'homme l'âme et le corps. Voilà. Donc, ça ne peut pas tirer à U et à Dia. Ça doit être consonant. Même si chacun a sa façon de faire et son territoire. Voilà. Et c'est particulièrement vrai sur le droit de la liberté d'opinion et d'expression. Tu peux me dire quelle heure il est, s'il te plaît? Oui, d'accord, je suis quand même en retard. Alors, une fois qu'on a posé l'autonomie dans son ordre du pouvoir temporel, il importe de le subordonner au pouvoir divin quant à son origine. Donc, ce que dit Léon XIII toujours, c'est que finalement, il y a le vrai principe, c'est Dieu. Et donc, c'est ça, c'est par son origine qu'il y a une subordination du pouvoir temporel ou finalement au pouvoir spirituel, au pouvoir de Dieu. Voilà. Parce que c'est le projet de Dieu sur l'homme qui fonde la société civile et non pas un contrat purement mythique. Voilà. Donc Dieu a voulu que dans la société civile, il y ait une autorité dont les dépositaires fussent comme une image de la puissance que Dieu a sur le genre humain en même temps que de sa providence. Quelque part, le pouvoir, c'est un peu l'image de Pilate. Le pouvoir, tu n'aurais rien si tu n'avais pas reçu du ciel. Mais donc, il y a quelque chose de cette image et de Dieu qui confie. Donc, toute autorité vient de Dieu. Mais du coup, le christianisme n'absolutise aucune forme de régime, puisque le fondement divin, ce qui est important, c'est l'origine, c'est la façon d'exercer cette subordination à Dieu. Et donc, le moyen en fait, choisi pour la désignation des responsables, ça peut être l'hérédité, le vote démocratique, le tirage au sort, enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut. En fait, la forme n'est qu'une forme. La souveraineté n'est en soi nécessairement liée à aucune forme politique. Elle peut fort bien s'adapter à celle-ci ou à celle-là, pourvu qu'elle soit de fait apte à l'utilité et au bien commun. Et donc ça, on verra tout ça, le bien commun. Donc c'est cette subordination à un bien supérieur. S'il s'agit de désigner ceux qui doivent gouverner la chose publique, cette désignation pourra dans certains cas être laissée au choix et aux préférences du grand nombre, sans que la doctrine catholique y fasse le moindre obstacle. Ce choix détermine la personne du souverain, il ne confère pas les droits de la souveraineté. Ce n'est pas l'autorité que l'on constitue, on décide par qui elle devra être exercée. Parce que finalement, l'autorité, la seule autorité, c'est celle de Dieu. Et donc, il y a juste, à un moment donné, un représentant qui est désigné pour occuper ce rôle, mais qui est une délégation, finalement. Donc aujourd'hui, la démocratie parlementaire semble la forme la plus convenable à la situation de l'humanité. Je reprends le terme convenable, qu'il n'y a pas plus que ça. Et elle ne saurait néanmoins prétendre soumettre à la volonté générale les valeurs essentielles de la vie humaine. Donc même là, attention, voilà. Pas d'absolutisation de la démocratie. Donc pour Pie XII, la démocratie permet de contrôler et de corriger l'activité des pouvoirs publics et encourage les aspirations légitimes des peuples à un système de gouvernement qui soit plus compatible avec la dignité et la liberté des citoyens. Donc en fait, si la démocratie garantit la dignité et la liberté des citoyens, elle est bien. Ce n'est pas l'unique régime qui peut faire ça. Voilà. À l'heure actuelle, c'est plutôt consonant, mais voilà, c'est convenable. Pour Jean-Paul II, un gouvernement démocratique a des chances d'être un meilleur garant du respect de la dignité humaine. La participation d'un peuple à sa propre destinée politique garantit une vie publique qui favorise les valeurs humaines et les droits inaliénables de l'homme. Donc on est exactement dans la même dimension. Avec Jean-Paul II. Voilà. Et donc, il n'y a jamais aucune notion abstraite, que ce soit la liberté, que ce soit le système de gouvernement, qui peuvent être un absolu, puisque de toute façon, ils sont subordonnés à la volonté divine. Et ce qui compte, c'est comment la volonté divine va s'exercer à travers le média, finalement. Ce n'est qu'un moyen. Alors, pour finir cette partie, le chrétien, il est acteur dans la cité, donc le chrétien n'a pas le droit de se désintéresser du politique. Il s'agit d'un domaine où l'intelligence humaine a son rôle à jouer pour améliorer le sort des hommes. L'ordre politique est celui qui s'efforce d'assurer la coexistence heureuse et féconde entre les individus et les groupes. Le bien commun qui lui est confié est le plus vaste qui soit, sans se substituer à d'autres instances. On en revient toujours à l'Église et à la famille. Quand n'importe quel État ou n'importe quel ordre politique commence à attaquer Église ou famille, on est pareil, ça commence à plus bien aller là. L'idée, c'est de faciliter la vie terrestre des hommes et de leur faciliter le chemin vers le bien. Les chrétiens, en tant que citoyens, ont le devoir de servir leur pays, de s'engager dans le débat politique, voire d'y exercer des responsabilités compatibles avec leur conscience. Donc, on a toujours cette dimension de la conscience, vraiment le principe de l'Esprit Saint. Et cela se fait souvent selon le principe du moindre mal, car aucun programme ne répond complètement à leurs aspirations. Donc, pas d'absolutisation non plus d'un programme, puisqu'on sait bien que, voilà, on est sur une terre pécheresse. Alors, en troisième partie, je suis désolée, c'est un peu marathon. L'Église, modèle de toute société vraiment humaine. Alors, avec tout ça, on pourrait se dire, bon, ben, on n'a pas beaucoup de directives de Dieu, donc il nous laisse un peu nous dépatouiller. Pas du tout. Il nous a donné les moyens, il nous accompagne. Donc déjà, le salut, en fait, qu'a donné Jésus-Christ, ça a réunifié l'humanité éclatée. C'est bien, on a remis d'aplomb un peu les fragments de miroir qui s'étaient cassés. Et donc... C'est l'Église finalement qui sera le fragile support de cette unité retrouvée, non juste en rassemblant les individus vivants chacun pour soi, etc., ni un ensemble embrigadé et endoctriné par force, mais vraiment une communion de personnes à l'image des personnes divines. Et c'est ça que saint Paul appelle la croissance de l'Église jusqu'à la plénitude de la stature du Christ. Dostoïevski nous dit que l'Église est l'icône de la société. Et donc, on a quelque part cette société humaine qui est, voilà, qui a vocation de ressembler à l'Église, vécue comme ça, comme cette pleine stature du Christ qu'elle doit être en devenir. Il faut savoir que l'Église, au Moyen-Âge, a été vraiment une source, une inspiration de vie sociale, un modèle. Et une des grandes particularités de ce modèle, c'est qu'elle agit et elle enseigne. Donc, elle est sur les deux tableaux. Elle n'est pas juste à dire les choses, mais elle fait. Et voilà. Donc, elle aussi, elle est acteur. Et elle le fait pour les chrétiens, mais au-delà, pour tous les hommes. Alors, on va revenir à la notion de bien commun, qui est un peu complexe. Donc, en fait, toute société suppose un bien commun à défendre, elle en est son gardien. Donc, l'idée, c'est de dire, si on laisse chaque individu faire ce qui l'intéresse, bah, y a de fortes chances que ça tire de chaque côté et que finalement, on ne puisse plus avoir quelque chose de commun ou vivre en commun. Voilà. Lié au péché. Je vous passe la citation de Jean-Paul II qui est pas spéciale. Alors voilà. Par contre, il faut pas dire que le bien commun c'est pas non plus une entité supérieure. Donc il y a pas d'un côté les personnes et puis de l'autre un bien commun. On sait pas très bien ce que c'est, un truc théorique qui flotte là. Pas du tout. En fait, le bien commun il est pas différent de celui de ses membres. Simplement, il est celui de tous ses membres, pas juste de certains. C'est ça la différence. Voilà. Et donc la société, elle n'existe que dans ses membres. Il n'y a pas de société d'un autre côté des membres de la société, c'est vraiment la société. C'est exactement ce qu'est l'Église, en fait. L'Église, elle existe uniquement parce qu'on est là. C'est-à-dire, s'il n'y a personne dans l'Église, l'Église, elle n'existe pas. Donc on n'a pas une réalité qui existe indépendamment. On a souvent cette vision-là la doctrine sociale de l'Église orchestre une juste compréhension du bien commun des sociétés. Donc Pie XII en 57 a déclaré « Le bien commun en vue duquel le pouvoir civil est établi culmine dans la vie autonome des personnes. » Donc on est bien sur la vie autonome. Il ne s'agit pas d'embrigader, on n'est pas... on peut être soldat, mais pas dans la vie tous les jours. Donc ça veut dire que quelquefois la société peut nous demander sacrifice, même le sacrifice de la vie, ce qui se passe en temps de guerre pour protéger un territoire, mais elle ne pourra leur imposer ce qui est contraire à la loi morale, même pour un avantage très grand. Donc là, la fin ne vaut pas les moyens. Oui. La fin ne justifie pas, pardon, les moyens. La vie d'un jeune ouvrier vaut tout l'or du monde. C'est ce que disait Joseph Cardin, fondateur de la jeunesse ouvrière en 25. Donc on n'a jamais une... Et saint Thomas d'Aquin disait très justement « Le devoir du roi est de poursuivre le coupable et le devoir de l'épouse du coupable est de le faire échapper. » Voilà. Et je trouve que c'est très... remettre les choses très claires. J'aime bien. Bon, une fois que saint Thomas d'Aquin a un truc hyper simple. Donc ça, c'est un miracle de saint Thomas d'Aquin. Et du coup, c'est vraiment cette idée-là. Et donc, quelque part, il y a... Voilà. Et c'est une articulation entre toutes ces choses-là. Le bien commun ne peut donc s'imposer au détriment de la dignité de l'homme et sur l'oubli de sa vocation surnaturelle. Donc on a bien un individu qui est parti d'un tout, c'est ce qu'on a vu dans la première partie, on a besoin des autres, etc. Mais il est aussi en tant que sujet spirituel, donc sujet personnel et unique, le centre autour duquel gravite le bien de la société. Alors pas autour de chacun, mais quelque part, oui, c'est ce que devrait être la société, c'est autour de chacun. Voilà. Donc il n'y a pas de réussite du groupe qui pourrait se faire sur le mépris de la personne. Et c'est pour ça que Jean-Paul II a réinterprété les droits de l'homme, qui sont en profonde cohérence avec l'inspiration du christianisme, finalement en disant bah, ces droits de l'homme, c'est justement ces droits de pouvoir être chaque personne, de réaliser sa vocation personnelle et dans une société, et qui est basée sur la liberté religieuse, conçue comme expression de l'orientation de l'homme vers Dieu, préalable à toute organisation sociale. Donc là, on remet encore la subordination à l'autorité de Dieu, et ça s'incarne dans cette liberté religieuse, qui le montre, voilà. Et donc, les droits de l'homme ne doivent pas faire oublier les devoirs, ça c'est l'autre partie qui l'a approfondie. Alors, si le fait que les sociétés, donc là je vous décris l'Église, mais du coup dans l'échec des sociétés, en fait, le problème c'est que c'est le péché, en fait, c'est ce qui est au fond du cœur de l'homme. Et quand les philosophes des Lumières ont, face à la religion qui était quand même un peu enquistée, j'aime bien l'expression, dans les structures politico-sociales, elles retrouvent les bases d'un humanisme issu de la révélation, liberté, égalité, fraternité, qui sont complètement issus christianistes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en privilégiant un homme abstrait, supposé naturellement bon et adulte, ils méconnaissent le rôle des solidarités naturelles et dressent l'individu seul face à l'État. Et en fait, c'est eux qui ont fondé tous les totalitarismes modernes. Qu'avant, il n'y a pas eu des catastrophes non plus, mais enfin là, on a un peu cumulé au XXe. Et c'est cette idée qu'il y a une sorte de bien supérieur aux personnes, et donc au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, on peut faire et tuer tout le monde, que c'est un peu le terreau pour tous les totalitarismes. Donc on a d'un côté le collectivisme ou de l'autre côté l'individualisme, en fait, qui naissent d'une impuissance à sortir d'une vision des rapports sociaux fondés sur la force. Et en prétendant assurer par la politique le bonheur définitif des hommes, en fait, il mutile l'humanité d'une de ses dimensions essentielles, sa liberté religieuse, signe que l'homme est ouvert vers une autre dimension. Donc finalement, il rabaisse l'homme sur la terre en lui coupant les ailes de sa spiritualité. Et du coup, en fait, c'est une illusion. Voilà, il n'y a pas de. C'est pas par la politique qu'on va faire le bonheur définitif des hommes, puisqu'on est fait pour Dieu. Après, on a toutes les oppressions. Quand on dit que le bien, que la finalité peut justifier tous les moyens. Voilà. Donc, dans l'enseignement de l'Église, si l'autorité est nécessaire comme gardienne du bien commun, donc l'Église affirme qu'effectivement, et elle le dit dans toutes ses encycliques sociales, c'est important qu'il y ait une autorité et qu'elle puisse gouverner, qu'elle ait de la capacité à faire, elle doit être mesurée à sa fin, et elle n'a pas tous les droits. Et donc, on peut avoir une forme un peu coercitive, typiquement la loi, les jugements, des choses comme ça, mais à cause de la nature pécheresse de l'homme, et parce qu'il faut mettre des limites, mais elle ne peut jamais dépasser, c'est-à-dire dès qu'elle commence à passer dans des débordements ou de l'oppression, et donc elle a échoué, quoi. Et donc, elle doit être restreinte à, quelque part, contrôlée pour pas être tyrannique. Et du coup, il est légitime pour un chrétien, et l'Église l'a quelquefois dit, alors localement, c'est rarement universel, on peut imaginer un tyrannicide. Alors, je pense pas au sens tuer, mais au sens s'assurer que le tyran est renversé. Et donc, on n'a pas à obéir dans tous les cas de figure, même si, normalement, on est plutôt dans l'obéissance de l'autorité. Alors, le deuxième aspect que je voulais creuser sur l'Église modèle de société, c'est tout ce qui tourne autour de la justice et la paix. Donc, le bien suprême, c'est le plein épanouissement de l'être humain, donc qui est le fondement et la fin de la vie sociale. Et parce que l'Église, elle est maîtresse de vérité, parce que c'est elle qui a le dépôt du Saint-Esprit, elle seule peut montrer à l'homme quel est son bien véritable et l'inciter à promouvoir son authentique dignité. Donc c'est vraiment l'Église experte d'humanité, comme on mentionne à l'ONU. Son œuvre en ce sens est significative tout au long de l'histoire. Donc en fait, elle n'a cessé de promouvoir une société plus juste qui respecte la dignité des personnes. Elle s'est surtout attachée à la protéger les familles aussi. Ça, c'est un de ses gros champs de protection. Et elle promeut la liberté et la responsabilité des personnes au sein de la société. Donc, je vous invite à lire. Alors déjà, elle a effectivement œuvré et enseigné sur tout ce qui est les droits fondamentaux, la santé, l'éducation, la vie spirituelle, libre mariage ou autre état de vie, le travail, l'égalité de tous devant l'accès aux responsabilités, la protection sociale face au pouvoir économique tentaculaire, le respect des faibles, etc. Et en fait, elle l'a fait depuis le début, puisque les premiers orphelinats, les premiers les hôpitaux, c'est l'éducation. L'Église, elle a mis en place des tas de choses dans ce domaine-là. Et puis plus récemment, avec le monde industriel, elle a essayé d'organiser. Elle a sponsorisé, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais enfin, elle a permis qu'il y ait des syndicats, par exemple, plutôt chrétiens, pour protéger les ouvriers, etc. Donc, il y a une vraie dimension sociale adaptée à où on en était dans la société et les risques, mais qui tourne toujours autour de tous ces, liberté individuelle et pouvoir vivre correctement. Voilà. Tout ce qui est liberté autour de du spirituel, de choix de mariage, enfin choix de vie, etc., qui sont liés à sa personne. Et tout ce qui est autour de la partie économique et sociale sur le travail, les responsabilités, etc. Notamment, je vous incite à lire quelques encyclices sociales. Hein. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'elle pousse sur la partie pour que les travailleurs et enfin tout ce qui est autour de la cogestion et la participation à la vie des entreprises, enfin tous les modèles un peu plus qui sont les modèles plus allemands que les nôtres, mais en tout cas comment participer à cette vie. Voilà. Et donc on a une vraie responsabilité individuelle, non seulement on l'a vu tout à l'heure dans la cité, mais aussi face à cette dimension économique et sociale. Voilà. Et par rapport au conflit, donc l'Église a toujours essayé d'humaniser, surtout de prévenir en appelant la concertation, l'arbitrage, la modération des hégémonies, comme intercéder dans pas mal de conflits. La guerre n'est jamais sainte. Elle peut être, dans quelques cas être juste quand elle est vraiment le dernier recours pour arrêter une agression évidente. Et quand elle respecte, ça c'est toujours très important, la proportion des moyens et ne provoque pas plus de maux qu'elle ne veut en éviter. Toujours ce sujet de prudence et d'équilibre. Voilà. La fin ne justifie pas les moyens, et donc il faut mesurer si on n'est pas en train d'utiliser un marteau pour taper sur une mouche. Elle a aussi encouragé toutes les formes d'arbitrage international qui permettent aux nations de régler les conflits. Et on sait que paix et justice sont les conditions du vivre ensemble, et donc elle a œuvré sur ces deux aspects. Donc là, je vous ai parlé plutôt justice sociale, mais justice dans tous les sens du terme. Et enfin, je voulais, dans une dernière partie, parler de l'autorité bienfaisante, les formes d'autorité dans l'Église. Comment s'exerce l'autorité ? Donc, quand on voit les actes des apôtres, à tout début de l'Église, on a l'autorité immense dont jouissent les apôtres, qui ont vu Jésus ressuscité. Donc, il y a manifestement, c'est eux qui convoquent l'assemblée des frères, c'est eux qui animent les débats, c'est eux qui châtient les déviations, ils tranchent les cas difficiles, etc. Notamment avec la jolie phrase « Il a plu au Saint-Esprit et à nous », donc ils ne sont pas dupes non plus de leur autorité. Ils la reçoivent aussi du Saint-Esprit. Mais voilà, ils décident. Et pourtant, à d'autres moments, ils se soumettent au jugement de l'Assemblée. Ils laissent par deux fois les frères désigner les candidats pour des fonctions importantes, notamment les diacres. Et puis Pierre, chef incontesté de la première Église, doit rendre compte de ses audaces devant les frères après le baptême du premier païen. Et donc, il doit s'en expliquer. Voilà. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, on a un processus de décision dans l'Église qui est un équilibre entre des décisions personnelles, ou personnelles au sens individuel du terme, et des décisions collégiales. Alors ça, c'est le principe pneumatologique. Voilà. Donc, on a un principe monarchique qui est plutôt le pape. Voilà, quand le pape se prononce tout seul, infaillibilité. Et puis, un principe plus pneumatologique avec tout ce qui est autour des conciles, des choses un peu plus collégiales. Et en fait, même quand on a un principe monarchique, il est souvent éclairé par des dimensions collégiales. Je vous donne l'exemple de la publication de l'encyclique Humanae Vitae en 1968 sur la question de la contraception, qui montre assez intéressant sur la manière dont se décident les choses. Donc là, on est vraiment sur une question de magistère, on est au plus haut niveau, on est pour l'Église. Mais ça pourrait être décliné sur des choses plus locales. Et donc, on avait Paul VI, et même avant lui, c'est pas lui qui a démarré, mais enfin, Paul VI qui a renforcé la consultation. Il a fait appel à toutes sortes d'experts, d'évêques, plein de gens. Et donc, il croyait vraiment en ce que le Saint-Esprit pouvait faire émerger de tous ses conseils. Et pourtant, à la fin, il a prononcé une unanimité contre l'avis de tous ses évêques et théologiens. Parce qu'il pensait qu'on était en train de toucher à quelque chose du dépôt de la foi, et que lui, en tant que vicaire du Christ, il était garant de ça. Voilà. Et ça montre bien cette alliance et donc ça a été très très mal perçu par, aussi parce que c'était le sujet de la contraception, mais cette ambiguïté entre il consulte largement, puis après il n'en fait qu'à sa tête. Mais en fait, c'est un processus de décision qui, sur des questions un peu graves, comme la pneumatique, mais qui pourra être de la même façon dans un monastère, qui prenne ce temps d'incubation et cette alliance entre du collégial et du individuel. Même si à la fin, on a l'impression qu'il n'y en a que l'un ou que l'autre. Voilà. Mais on n'est jamais... c'est intéressant de voir qu'on maintient le choix des papes avec un vote... comment on appelle ça ? Quand tout le monde... unanimité, voilà. Par unanimité, ce qui est quand même un processus de décision quand on a plus de 300 personnes, qui est quand même complètement absurde. Mais voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Mais parce qu'il y a toutes ces discussions, ces tours, etc., qui font que ça avance. et qu'on a besoin d'une certaine forme de, justement, que ce principe monarchique s'appuie sur une personne unique. Je me dépêche. Alors, petit passage sur la... Alors, l'autre principe qui est très important dans l'Église et dont la société ferait bien de se un peu plus s'appuyer, c'est le principe de subsidiarité. Et donc là, l'idée, c'est de la décision, elle est prise au meilleur endroit, là où il se passe les choses. Voilà. C'est très, très symptomatique chez les bénédictins, où c'est le monastère qui a quasiment tout pouvoir, qui a la subsidiarité. Donc il n'y a pas un organisme général de tous les bénédictins dans le monde, je ne sais pas où. Il y a une communauté des bénédictins donc qui se recueillent, ils échangent, etc. Mais finalement, la décision, elle se passe sur le terrain, c'est-à-dire là où sont les frères. Et à l'intérieur de cette décision, ce n'est pas seulement le père abbé, mais c'est son chapitre. Voilà. Et donc toutes les décisions importantes, elles se font au niveau le plus local possible. Voilà. On a d'autres formes sur d'autres types de communautés, mais ça va être intéressant. Donc la hiérarchie est un ordre sacré. Alors là, c'est une phrase de Denis le Mystique sur la hiérarchie, parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de cette autorité dans la hiérarchie ? Donc la hiérarchie est un ordre sacré, une science, une activité s'assimilant autant que possible à la ressemblance divine. Donc là, il met la barre très très haute, parce que personne n'a l'idée que la hiérarchie, c'était lié à Dieu. Elle fait participer chacun selon sa valeur à la lumière qui est en elle. Le but de la hiérarchie est donc autant que possible une assimilation et une union à Dieu. Donc c'est une vision de la hiérarchie qui est très au sens mystique du terme. Voilà, hiérarchie céleste. Et donc c'est la hiérarchie de l'Église, dans l'Église, hein, c'est ça. C'est le partage par Dieu de son action divinisatrice sur l'homme. En fait, tout le pouvoir qui est donné à des personnes, c'est de faire avancer les capacités de sanctifier les membres du corps du Christ et de les faire avancer vers le Christ. Donc en fait, c'est vraiment cette action divine de Dieu qui est donnée en partage aux apôtres, aux pères, aux prêtres, aux curés, aux évêques, etc. Et même aux laïcs qui ont une mission particulière. Et donc, on est paradoxalement défini dans l'Église, non par la place qu'on prend, mais par celle qu'on laisse, pour que la grâce puisse se répandre selon l'exemple du Christ qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et donc, c'est plutôt la mise en retrait pour laisser l'autre grandir. Voilà. Et c'est aussi parce qu'il y a toujours le Saint-Esprit qui est là pour prendre le relais et pour promouvoir. La hiérarchie interprétée comme apostolicité est au fond l'exigence de la communion. En dépendance de l'initiative gracieuse de Dieu, nous ne sommes chrétiens qu'en répondant à une convocation, c'est ce que veut dire ecclésia, église, en acceptant de dépendre concrètement dans notre vie d'église d'un niveau d'autorité qui nous précède jusqu'à la source paternelle, seul commencement absolu. Donc en fait, dans l'église, parce que cette autorité finalement est une bienfaisante, mais une autorité de service finalement, qui est au service des personnes et de ses membres, et ben en fait, elle peut susciter et elle demande, quelque part, elle réclame l'obéissance dans l'autre sens, et l'alliance des deux va faire que on avance vers la sainteté. Voilà. Et parce qu'on est en référence à la source paternelle et au vrai Père du ciel. Voilà. Et donc, quand elle est l'autorité se met au service du bien, et au service du bien commun, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est-à-dire au service du bien de ses membres, elle conduit à la libre obéissance, à l'image du Fils, notre maître, obéissant au Père. Et donc le Fils, il est à la fois le maître, celui qui a toute l'autorité, et en même temps celui qui s'efface devant le Père, et qui nous conduit au Père. Donc il laisse la place pour nous conduire au Père. Voilà, conclusion, c'est le royaume n'est pas de ce monde. Donc on pourrait se dire, bon, il est urgent, on ne donne rien faire. Eh bien, pas du tout. Donc Dieu a voulu l'homme en société, sur cette terre, et la société n'existe pas sans ses membres. Il a voulu l'homme au centre. Et c'est son bien, donc, qui doit être recherché. Et ce bien est ordonné à la volonté divine. Donc, ce n'est pas le bien de l'individu en tant que tel et c'est son plaisir, mais c'est le bien de sa vocation qui est ordonné à la volonté divine. Il a voulu la famille comme cœur de la société, comme la réalité concrète de la société. Et le royaume n'est pas de ce monde, mais Dieu nous demande d'agir sous la mouvance du Saint-Esprit. Et c'est en ça que l'Église peut être un modèle de société. C'est sous la mouvance du Saint-Esprit pour le rendre plus juste, plus bienfaisant pour l'homme, tout en mesurant la pauvreté de nos actions sans lui et en étant tendu vers le retour du Christ. Donc on sait que le royaume n'est pas de ce monde, mais il nous demande d'agir dans le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde, et donc on doit rester avec cet ordonnancement au Saint-Esprit et puis tendu vers le royaume de Dieu. Et je vous livre une petite phrase finale de Bergson. La morale et la religion ont besoin de deux sources, l'appel du héros et la correction fraternelle. Et je trouve que c'est un bon aussi motto de vie en, en société. Il faut tant oser aller voilà, prendre des responsabilités, aller du devant, oser contredire les autres. Voilà. Ce n'est pas toujours le plus grand nombre qui a raison. Et puis en même temps, la correction fraternelle, et ça se fait dans le cadre où on sait qu'on est pêcheur et que. Voilà. Mais on peut essayer de faire avancer les autres. Merci. Merci.